Tâche d'animer la deuxième table ronde avec une thématique qui s'appelle ressources et coopération entre l'idéal et le possible. Donc avec moi dans cette table ronde pour évoquer ce sujet-là, Catherine Isserlis, donc de l'ARS Île-de-France. Docteur Catherine Brice, il ne faut pas trop reculer parce qu'après il y a un trou derrière l'estrade. Et je ne voudrais pas vous perdre en début de table ronde. Docteur Catherine Brice, donc, qui est directrice médicale du CESAP, et Jacques Lausson, directeur général de la fondation Le Phare. Je vais peut-être vous laisser présenter très rapidement votre structure et voilà, expliquer de quelle place vous allez prendre la parole.
Oui, bonjour. Bon, je vous... Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas par quel bout d'ailleurs vous m'avez pêché, mais j'ai été hameçonnée. Donc, je suis Catherine Isserlis. Alors, je suis annoncée comme représentant l'ARS d'Île-de-France. Je travaille effectivement au sein de l'ARS d'Île-de-France. Et dans votre auditoire, je cumule un certain nombre de handicaps, entre autres celui de représenter la tutelle, celui d'être psychiatre, pédopsychiatre, tout ça. Et plus largement celui de mon parcours, puisque j'ai été chef de service en psychiatrie, mais que je ne le suis plus, que j'ai été coordinatrice de la mission nationale d'appui en santé mentale, mais qu'elle n'existe plus, et que je suis donc à l'ARS depuis assez peu de temps, dans une ARS qui comprend près de 1000 personnes, et que je n'en connais pas tout à fait tous les rouages. Donc je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes vos attentes.
Merci.
Bonjour. Bon, Catherine Brice, je vous remercie moi aussi de m'avoir invité à parler dans votre congrès. J'ai particulièrement apprécié le film hier soir qui nous a montré que la coopération, ben, ça existait depuis longtemps, qu'on avait encore beaucoup à apprendre. La pérennisation de votre savoir, ça fait peut-être partie de la coopération. Alors juste, j'ai une double appartenance, tout d'abord au monde médico-social avec ma fonction de directrice médicale du CESAP, le CESAP comité qui... autour de l'éducation, des soins auprès des personnes en situation de polyhandicap, je vais le repréciser. Et puis une autre appartenance, puisque je suis médecin de médecine physique et responsable de l'hôpital de La Roche-Guyon qui accompagne des enfants, adolescents, jeunes adultes en situation de polyhandicap aggravé. Le CESAP, j'ai donné son nom tout à l'heure, mais travaille sur des axes forts. Je pense que il commence, c'est une association d'utilité publique qui commence à être bien connue, qui est quand même très régionale Île-de-France, qui travaille à la gestion d'une vingtaine de structures en Île-de-France et un peu plus loin dans l'Oise et en Indre-et-Loire aussi. Ces établissements sont organisés du CAMS au CESAD, à l'externat, internat, alternat maintenant, internat séquentiel, masse et accueil de jour. Donc quelque chose de très varié. Dernier point, le CESAP travaille aussi sur l'accompagnement de la formation diplômante et formation en cours de parcours. Formation diplômante, travailleurs de nuit et AMP, formation cours de parcours autour du polyhandicap dans la France entière, soit à Paris, soit dans les établissements. Je compléterai par l'axe recherche et l'axe documentation ressources pour faire court.
Merci. Et donc, Jacques Lausson.
Bonjour, Jacques Lausson. J'ai le privilège d'être le directeur général d'une fondation qui s'appelle la Fondation Le Phare, qui est à Mulhouse, c'est au sud de l'Alsace, et qui travaille en direction des publics ayant une déficience sensorielle, déficience auditive, déficience visuelle et également dysphasie. Nous intervenons essentiellement dans le cadre d'un CESAD de 250 places en inclusion scolaire quasi intégrale. Je vous expliquerai pourquoi je vous dis quasi intégrale. Je voudrais juste remercier chaleureusement, bien sûr, la FISAF qui me donne le privilège d'intervenir. Je ne fais partie de ce monde du handicap à titre professionnel que depuis 2 ans. Donc c'est un privilège et je remercie Maurice de me permettre de prendre la parole sur ce sujet du handicap associé. Je voudrais également remercier Madame Gambrel ce matin pour ses mots. Vous avez des mots, Madame, qui sont extraordinaires pour décrire le handicap. La méthodologie d'intervention, vous avez des mots ciselés dont nous nous permettrons, en tout cas moi en interne, de reprendre cela avec les équipes. Merci pour vos propos. Je me permets enfin de dire, certains le savent, que je suis le père d'un enfant handicap qui a un handicap associé, sourd, épileptique et handicap moteur. Voilà, je vous remercie.
Merci. Alors, j'avais prévu une petite introduction à cette table ronde en me basant sur le contenu des échanges de la première journée, des ateliers de la deuxième journée. Il m'avait semblé intéressant de pouvoir échanger au cours de cette table ronde sur la question des cases, parce que c'est un terme qui est revenu lors des 2 journées précédentes, la notion de tension permanente entre une organisation médico-sociale, mais aussi sanitaire, qui est très disposée par filière, organisée, structurée par filière, qui peut proposer un accompagnement collectif. Et puis, le besoin, la revendication, la notion de parcours de vie, la notion de parcours individuel, d'accompagnement individuel, donc cette tension entre les attentes d'un côté et puis l'organisation telle qu'elle est. Et puis, il y a eu la première table ronde. Et je pense qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites dans cette première table ronde, justement sur le regard des familles, le regard des personnes, qu'on va essayer de reprendre un petit peu cette question des ressources, des coopérations aussi, avec cet angle d'attaque-là. De voir, à partir de tout ce qui a pu être dit dans la première table ronde, comment le dispositif, les dispositifs, qu'ils soient sanitaires, médico-sociaux, l'organisation territoriale peut se mettre en place et comment ces notions de ressources, de coopération peuvent répondre à tout ce qui a été exprimé par les parents. Alors peut-être une première question à vous trois, justement quand on parle de coopération et de ressources, qu'est-ce que vous y mettez derrière ces termes quand on parle d'accompagnement, de dispositifs dans le champ de la déficience sensorielle avec handicap associé? Qui se lance?
Je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question. Dans qu'appelle-t-on coopération et ressources? On peut la trouver à différents niveaux, cette coopération et cette ressource, pour répondre aux attentes qui ont été soulevées ce matin, tout à l'heure, particulièrement au niveau de la fragilité sur le plan somatique, sur le plan de l'ouverture sociale, sur le plan de l'éducation. Cette coopération, on peut la trouver au sein même de nos associations, de nos organisations, en réseau bien sûr, mais de nos organisations intra-associatives. Je veux dire par là, j'ai présenté tout à l'heure les différents types d'établissements que l'on peut rencontrer au service des personnes en situation de polyhandicap. Il est évident que ces différents types d'établissements sont situés dans l'ensemble de l'Île-de-France, par exemple, et essayent de répondre à une demande de grande proximité, mais qu'ils essayent aussi de répondre, de proposer un parcours modulaire, adapté. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une réalité, en passant d'une structure à l'autre, et pas forcément d'ailleurs au sein même de l'association. Il y a des ponts permanent qui existe entre les différents établissements, c'est une véritable coopération. Un autre point, c'est l'organisation dans nos associations autour du rapprochement de certaines structures sous forme de pôles qui permettent des mutualisations de moyens, que ce soit en termes de professionnels ou en termes de compétences. Et je pense notamment que c'est très intéressant pour les plus petites structures, par exemple un CESAD, sans rentrer dans les détails. Ces ressources, on peut les retrouver aussi dans d'autres modalités d'organisation en termes de réseaux sanitaires. On l'a dit tout à l'heure, le problème, c'est le diagnostic, le problème, c'est l'accompagnement de qualité, le problème, c'est la fragilité somatique de ces personnes. Donc, comment faire pour qu'il n'y ait pas une disjonction entre le projet de soins et le projet de vie ? Comment faire pour qu'on puisse accompagner, proposer toujours la bonne réponse ? Il y a des réseaux qui permettent de mettre en commun le monde du sanitaire, de la neuropédiatrie aux établissements. Je vais avancer un petit peu, mais une des réponses, la télémédecine, c'en est une. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il y a aussi des adossements entre certains établissements sanitaire, je pense à celui où je travaille, un SSR, avec les établissements du CESAP de proximité qui nous permettent là aussi un partage de professionnels, qui nous permettent une mutualisation de compétences autour de la santé, et un établissement de SSR qui se met à disposition tout au long du parcours de vie de ces personnes. On peut avoir des allers-retours, venir 3 semaines, faire un séjour de répit, faire un séjour d'évaluation, faire un séjour prolongé lorsque les établissements médico-sociaux sont en difficulté. Ce dispositif permet aussi aux établissements médico-sociaux d'aller plus loin dans l'accompagnement parce qu'ils savent qu'il y aura toujours un système ressources pas loin. Je vais peut-être rester là parce que sinon je peux continuer.
Pardonnez-moi, nos amis anglais, ils ont créé des agences de voyage pour personnes différentes. Il y a par exemple des agences de voyage au hasard pour les gens autistes, pour les gens... Voilà, tout ce que, avec de vrais voyages, l'idée, ce n'est pas de moisir dans un ghetto au soleil, un ghetto à riche au soleil. Non, l'idée, c'est de se développer. Et finalement, quelle différence on fait entre soins et vie, quoi ? Moi, je ne comprends pas très bien la différence, s'il y en a une.
Tout à fait. Je veux simplement dire que pour les personnes en situation de polyhandicap, le projet de soins, il est complètement au service du projet de vie. Et ça ne doit pas être l'inverse. Et c'est probablement ce qui a posé problème dans le passé.
Oui, si je peux reprendre les choses de façon un peu plus macro. Moi, je pense qu'il y a des temps dans notre évolution. On a eu la loi de 75 et il va y avoir une loi de santé publique qui tarde à arriver parce qu'elle remet beaucoup de choses en question. Cette loi de santé publique, elle est issue des réflexions sur la stratégie nationale de santé. Donc, elle sort pas de rien, elle sort de quelques années de réflexion où les axes principaux... Au stade où on en est actuellement et dans un contexte de financement contraint quand même, hein, c'est pas, ça ne se passe pas hors du temps, il faut revoir notre organisation de santé d'une façon qui réduise les inégalités territoriales. Hein, on sait que ces inégalités territoriales, elles sont massives en France. Premier point, et qu'elle réduise aussi les inégalités sociales en matière de santé. Quand on dit inégalité sociale, il y a l'aspect social au sens où il y a la question de la pauvreté et de l'exclusion, mais il y a aussi des populations cibles, des populations pour lesquelles l'accès aux soins est plus difficile et les personnes handicapées en font partie. Donc c'est un aspect populationnel sur un certain nombre de facteurs sociaux qui rendent l'accès aux soins plus difficile. Ce sont les deux axes qui orientent actuellement les modifications qui vont être proposées sur les stratégies nationales de santé. Alors comment ça va se passer ? Ça va se passer sur la mise en place, c'était encore dans les journaux ce matin, d'un service territorial de santé au public. Ce qui est important, c'est tous ces mots, ces services. Alors, pendant un moment, ça s'appelait service public de santé territoriale. ça n'est pas qu'un service public, c'est un service qui comprendra la médecine libérale. Donc c'est un service territorial. Territorial en termes de territoire de santé, mais aussi de ce qu'on appelle à l'ARS d'infraterritoire. La proximité, ça n'est pas un département, ça peut être beaucoup plus petit que ça. Et donc, après avoir déterminé les territoires de santé, on travaille maintenant en infraterritoire, autour de bassins de vie ou autour d'attractivité d'hôpitaux. Et parfois, ça ne marche pas bien d'articuler les deux. Et donc, il y a des réflexions sur qu'est-ce que c'est qu'un infraterritoire. Service territorial de santé. La santé, ce n'est pas que la maladie, c'est aussi la bonne santé. Ça, c'est pour répondre à M. Chevanec. Et c'est tout ce qui se passe tout au cours de la vie. Et donc, il y a aussi tout un travail d'accès à la citoyenneté. C'est aussi la bonne santé, à la participation, aux loisirs, à la culture. Ce sont des aspects qu'on ne doit pas laisser par derrière nous pour ne penser qu'aux soins et à l'accompagnement. Ça implique les conseils généraux. Ça implique les municipalités. Et j'avance un tout petit peu, les ARS signent des contrats locaux de santé avec ces acteurs élus représentant la vie sociale, où sont présents les élus, mais aussi des représentants des usagers. Servir et au public, effectivement, c'est à la demande des besoins, après une étude des besoins du public. Donc, mise en commun de toutes les ressources sanitaire, médico-social et social sur un territoire en fonction d'état des lieux.
Merci.
Moi, je parlerai davantage, bien sûr, en fonction de ma fonction de direction. Je pense qu'il y a des choses très pragmatiques et très importantes à mettre en œuvre en tant que dirigeant dans des structures de médico-social. Et que même si le sensoriel, je vous l'accorde, et on l'a dit hier dans un atelier, occupait finalement sur le champ du handicap une place non pas marginale, bien sûr, mais une modeste place, ses apports en termes de communication sont absolument énormes. Et les compétences que développent les professionnels qui sont ici et dans nos structures doivent être également au service d'autres structures qui interviennent sur le champ du handicap moteur, sur le champ du handicap intellectuel, etc. Pour cela, il faut que nous, les responsables des établissements, nous ayons des postures d'ouverture auprès d'autres établissements. Lorsque, je vous l'ai dit, je suis arrivé dans ce secteur d'activité, j'ai été un peu surpris par cette pseudo-concurrence qui existe quelquefois, appelons un chat un chat, entre les établissements. Il est extrêmement important d'aller au-delà de cela et de construire, parce que nous avons sur le champ du sensoriel justement cette compétence-là et que nous avons les moyens d'aller au-delà de ces querelles quelquefois de chapelle et d'adopter des postures de partenariat. C'est vraiment fondamental au-delà des dispositifs qui sont mis en œuvre de politique générale, de politique de santé. Il y a également, nous, acteurs au quotidien, professionnels, qui devons adopter ces postures parce que, oui, le sensoriel peut intervenir. Aujourd'hui, on a un plan autisme en France qui se développe. C'est d'ailleurs sur presque uniquement sur cette compétence-là qu'actuellement, il y a pas mal de crédits. Hein, on les voit passer.
Il ne se développe pas. Ce n'est pas comme le cancer, il ne se développe pas.
Merci. Et en tout cas, et je pense que sur le champ de l'autisme, là aussi, le sensoriel a des compétences absolument énormes. Deuxième chose, encore toujours sur cette posture également des acteurs que vous êtes. Il y a beaucoup de professionnels ici. Et on a vu dans certains ateliers des questions qui étaient posées, les difficultés que vous pouviez avoir par rapport à des situations de handicap associés. Vous avez des savoir-faire qui sont indéniables là-dessus. On a eu un témoignage hier d'une monitrice éducatrice, je crois que c'était l'IRSAM, qui intervenait, où on sentait l'expérimentation, on sentait d'essayer de tomber et puis de réessayer en permanence. Vous savez, hier, on a vu un film, elle faisait couteau, couteau, couteau. Vous êtes là-dessus et c'est là-dessus qu'il faut être. Donc, je peux comprendre à un moment donné, dans des processus de collaboration, dans des processus qui prennent en compte le handicap associé, la difficulté dans laquelle vous pouvez être. Néanmoins, vous savez, les parents savent, Madame Gambrel et d'autres acteurs ont insisté sur cette collaboration qui est absolument incontournable. Et à partir de cela, on peut construire des partenariats et on n'est pas obligé d'être dans une posture qui est celle de dire que j'entends quelquefois, y compris dans ma structure, par rapport à des enfants en situation de handicap psychique ou intellectuel et de handicap sensoriel. Mais nous, vous comprenez, on ne peut pas faire avec ces enfants-là. Ils sont sur des listes d'attente en IME. C'est évidemment difficilement entendable pour un responsable de structure. Mais ce sont des propos qu'il faut savoir appréhender et qu'il faut entendre pour travailler là-dessus. Et c'est absolument fondamental. Mais ne doutez pas, ne doutez pas les uns et les autres de vos compétences.
Alors, j'ai envie que vous gardiez la parole peut-être pour nous expliquer très concrètement ce qui est mis en place par votre fondation. Vous avez évoqué une coopération avec d'autres établissements. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place justement sur ces logiques de coopération et comment vous pouvez être ressource pour des équipes qui justement sont en difficulté sur des accompagnements, des accueils d'enfants avec troubles associés?
Ce qu'on met en place sont des choses extrêmement simples. Lorsqu'on a un établissement, on travaille dans le cadre d'une expérimentation dont on parlera peut-être plus tard, ou je ne sais pas si vous le souhaitez, si vous souhaitez l'évoquer maintenant. L'établissement que je dirige, vous l'avez compris, a une politique d'inclusion extrêmement forte, puisqu'il y a des places qui ont été, au fur et à mesure des années qui ont passé, on est là sur des évolutions de 20 ans, étaient converties en place de CESAD. Nous avons été amenés de ce fait à avoir une politique d'inclusion forte, et y compris sur des enfants en situation de handicap associé. D'autres le font également. On a vu un témoignage extrêmement intéressant de nos amis nantais autour de pôles d'intégration dans les écoles ordinaires. Eh bien, on s'aperçoit néanmoins que quelquefois, cette scolarisation n'est pas possible. Même si on a pu développer des politiques d'inclusion extrêmement fortes, elle n'est, à un moment donné, plus possible. Et dans ces cas-là, il faut pouvoir, en tout cas, c'est ce que nous avons fait, et nous avons la chance que cette expérimentation dans laquelle nous sommes depuis, qui va durer 3 ans, a été validée par un arrêté et validée donc par les autorités administratives, en l'occurrence l'ARS. Nous travaillons ces enfants. Il y a 10 enfants dans ce cadre-là qui entrent dans le cadre de l'expérimentation, sont dans des IME pour déficience intellectuelle, selon les profils légères ou moyennes, voire plus importantes. Et dans ces cas-là, nous intervenons quelquefois à temps plein, c'est-à-dire j'ai un salarié qui est en permanence dans la structure dans laquelle concerné, dans un des établissements concernés, et d'autres qui vont intervenir à raison de 3-4 fois par semaine. Alors, vous le faites déjà. Certains le font. Nous n'avons pas forcément, nous ne menons pas une collaboration qui est exceptionnelle. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans notre cas, c'est que l'ARS et les autorités aient accepté de mettre la focale là-dessus. Elle nous a dit, bien sûr, vous bossez à périmètre financier constant, cela va sans dire. La seule chose que j'ai demandé, c'est qu'il y ait une évaluation qui soit faite, et ce, dès le départ. C'est-à-dire que, et cette évaluation, ils ont accepté de la financer. Je viens d'un autre secteur professionnel, je vous le disais, qui est celui de l'insertion professionnelle. Vous vous souvenez peut-être de Martin Hirsch, qui avait été haut-commissaire à la solidarité active sous le gouvernement Fillon. Il avait mis en place des expérimentations. C'était extrêmement intéressant. Il y a eu des projets sur lesquels on a pu travailler, notamment dans le secteur de l'insertion professionnelle, de manière expérimentale. Et il demandait, la condition, c'était à côté, il y a un cabinet d'expertise, un évaluateur, qui, tout au long de l'expérimentation, intervient. Vous savez qu'en France, on n'évalue jamais, et quand on évalue, c'est 5 ans après, quoi. Donc ça ne sert à rien. Donc là, on a essayé de mettre en place une méthodologie évaluative tout au long du processus. Cette collaboration, elle a pu se faire. Comment a-t-elle pu se faire? Comment se fait-il qu'à un moment donné, on a pu travailler en aussi étroite collaboration avec les trois établissements dont je vous parle? Ça tient aussi, quelquefois, à... hier, encore une fois, désolé, mais beaucoup de choses ont déjà été dites ici. Hier, on avait une expérience de collaboration entre le CROP et un IME, la Cigale, je crois, sur le handicap moteur. Et à un moment donné, on sentait que si cette collaboration avait eu lieu, c'était tout simplement parce qu'il y avait des accointances, il y avait eu des contacts, il y avait eu un partenariat entre les responsables. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. C'est extrêmement important et quelquefois, ces partenariats-là et ces expériences un peu hors du commun ont lieu aussi parce que les gens savent travailler ensemble au-delà de leur propre structure. J'insiste lourdement, mais c'est fondamental.
Merci.
Pardon, Monsieur Lozon, merci beaucoup pour de nous parler donc de coopération entre établissements. Effectivement, il en faut plus. D'ailleurs, il y a un prêt entre bibliothèques pour les livres. Pourquoi pas faire circuler nos amis doués de handicap entre différents établissements. Bon, mais j'avais posé un défi plus méchant, si vous le permettez, que faire collaborer les établissements. Heureusement, on commence à le faire. Mais faire collaborer des médecins de spécialités différentes. Ça, c'est nettement plus difficile parfois. En d'autres termes, 95% des dentistes refuseront de soigner un gamin autiste, par exemple. Bon, heureusement, à Lyon, il y a un excellent contre-exemple. Mais vous voyez, par exemple, si vous êtes labellisé comme porteur d'un handicap relevant de telle spécialité médicale, les autres spécialités médicales ne vous verront pas d'un bon œil. Donc, si vous avez une rage de dents, c'est la faute de votre mère. Si vous êtes, par exemple... Vous voyez, je le dis de manière caricaturale.
Bien, oui.
Mais si vous le permettez, j'ai beaucoup aimé, Madame Isserlis, vous avez évoqué les inégalités entre territoires, entre régions. Et c'est vrai, elles sont énormes. Mais j'allais dire, de ma petite perception, j'ai l'impression que plus qu'une inégalité financière qui existe aussi, c'est une inégalité, je dirais, culturelle. La culture du handicap n'est pas présente de la même manière suivant les régions. Et d'ailleurs, c'est un point, je ne sais pas, comment peut-on faire pour créer une meilleure culture du handicap qui éviterait, par exemple, le problème si vous êtes un enfant ou un jeune ou un moins jeune labellisé comme ceci ou comme cela, que vous n'ayez pas, j'allais dire, accès aux autres dimensions de la vie, y compris sur le plan médical. Vous voyez ce que je veux dire? Et on reconnaît maintenant les réfugiés climatiques. Quand est-ce qu'on reconnaîtra les réfugiés de MDPH qui fuient leur département d'origine et j'en connais beaucoup. Donc, un nouveau programme à l'ONU, non, je crois.
Merci. Alors, docteur Isserlis, justement, je souhaitais vous donner la parole en complément de ce qu'a dit Joseph Chovanec. Bon, vous avez la mauvaise place, hein.
Oui,
à la fois ARS et médecin, je suis vraiment désolé pour cette matinée difficile.
C'est le polyhandicap.
Et pédopsychiatre en plus. Alors justement, j'avais envie de venir sur cette question-là. On a vu sur les deux premières journées beaucoup de questions qui tournaient autour des collaborations médico-sociales et sanitaires, et particulièrement autour de la collaboration entre le médico-social et la psychiatrie, psychiatrie ou pédopsychiatrie. Des professionnels se sont exprimés sur les difficultés à un moment donné de pouvoir faire appel à une certaine expertise, à des ressources et avoir soit des délais de réponse très complexes, soit des réponses qui ne correspondaient pas. Alors peut-être dans l'idéal fantasmé de certains professionnels de la réponse que peut apporter la psychiatrie. Voilà. Comment on peut travailler sur ces aspects coopération, ressources entre sanitaires, médico-sociaux et particulièrement sur le champ de la psychiatrie?
Non, bon. Je réponds pas en tant qu'ARS.
On arrête les enregistrements alors, si c'est possible, non?
Bon. Oui, les critiques de la psychiatrie fusent en ce moment de façon particulièrement forte et probablement d'autant plus que les attentes sont fortes. La psychiatrie... Elle est plus qu'elle était, et quand j'ai commencé mes études, je ne vous dirai pas quand, mais enfin, quand même, il y a... pas loin de 50 ans. Et où on commençait tout juste à faire sortir les personnes des hôpitaux psychiatriques. D'ailleurs, j'ai même travaillé dans un hôpital où il restait une unité pour jeunes autistes en hospitalisation temps plein de 12 lits, là où avait été prévu de reconstruire l'hôpital à hauteur de 120 lits. Donc on a divisé par 10 le recours à l'hospitalisation. Donc vous voyez à quel point quand même la psychiatrie s'est transformée. Alors elle s'est transformée en fournissant plus d'ambulatoires, elle s'est transformée en travaillant mieux au niveau des médicaments quand même, et elle s'est transformée en intégrant, à cause des médicaments probablement, des fonctionnements de plus en plus médicalisés, alors qu'elle était dans une dynamique de plus en plus sociale, puisque pendant un moment, on s'est posé la question de rattacher la psychiatrie au secteur médico-social. Dans les années 70, c'était des questions qui se posaient. Vous voyez que maintenant, c'est plus du tout dans l'air du temps, parce que des médicaments actifs sont arrivés. Le problème de ces médicaments actifs, pour lesquels il y a des attentes, c'est qu'ils sont génériques, et qui ne sont pas focalisés sur tel ou tel aspect de la personne. Les neuroleptiques ont moins d'effets secondaires, ils sont bien meilleurs, mais ils agissent toujours de façon générale, en faisant céder un certain nombre d'agitations, de forces d'opposition, on pourrait dire. Mais ça ne soigne pas tel ou tel aspect de la personne, sauf parfois les hallucinations. Sur les hallucinations, c'est assez spécifique. Sur la dépression, c'est assez spécifique. J'en profite pour dire, on ne pense pas assez aux aspects dépressifs des personnes porteuses de handicap. Elles l'expriment mal. Elles l'expriment par des troubles du comportement. Et derrière ça, c'est souvent des aspects affectifs extrêmement négatifs qui sont perçus. Et elles ne reçoivent pas du tout ni l'empathie ni les soins qui sont ceux que d'autres personnes qui s'expriment mieux et qui expriment mieux leurs émotions peuvent obtenir. Il faut l'avoir à l'esprit. Donc, la
je crois qu'il y a une petite intervention.
Pardonnez, bravo. Si je peux juste une petite parenthèse. Nos amis québécois ont mis en place, par exemple, un ensemble de protocoles à destination des médecins, en particulier psychiatres. Comment faire pour que une personne puisse exprimer justement, par exemple, ses idées suicidaires, etc. Il se trouve que si on ne connaît pas certains handicaps spécifiques, on passe complètement à côté, justement, de cette thématique. Et je vous remercie de l'avoir évoqué, mais j'allais dire, comment faire pour, par exemple, faire cette formation aux futurs, par exemple, médecins, aux futurs psychiatres, sachant que dans toutes les années, par exemple, passées à la fac de psychiatrie, il peut n'y avoir que 5 minutes, voire encore moins, sur, par exemple, tel ou tel handicap majeur, au hasard, l'autisme.
Alors, alors là, on va réintroduire des modules sur l'autisme, le plan l'a prévu, ça va être fait. Mais c'est pas pour autant qu'on pourra apprendre aux médecins à utiliser autre chose que leur modalité relationnelle habituelle. Ça ne s'apprend pas en médecine, effectivement. Et donc, c'est une grosse difficulté. Alors, il y a beaucoup de choses à apprendre en médecine. On pourrait se dire, essayons peut-être de tabler sur d'autres professionnels. Les médecins sont toujours entourés d'infirmiers. Pourquoi ne pas plus former les infirmiers sur les aspects relationnels ? On parlait de l'apport des psychologues. Il y en a énormément sur le marché, puisque c'est une des voies de faculté la plus ouverte, des études les plus intéressantes. Mais pour trouver du travail, c'est difficile. Donc là, on va tomber sur des aspects de financement, de formation, mais il y a peut-être quand même des choses à faire remonter et à développer. Mais je n'ai pas la solution toute faite. Je continue sur les médicaments. Le problème de ces médicaments, c'est qu'ils ne résolvent pas l'affaire, hein, et que quand quelqu'un arrive avec un handicap, et un handicap portant sur la communication, et un trouble du comportement, et un trouble du comportement sévère, on fait appel à la psychiatrie. Et la psychiatrie, qu'est-ce qu'elle dégage comme arsenal ? C'est ces médicaments. Alors, ça fait diminuer le niveau de trouble de comportement, mais en réalité, ça ne soigne rien. Donc, il faut se poser les bonnes questions. La dépression, la douleur, la douleur. Et puis, après, faire ce qu'on peut pour garder toujours cet aspect relationnel qui est quand même très difficile pour des gens qui ont l'habitude, mais vraiment l'habitude, de travailler sur le discours. Hein. En psychiatrie, on travaille sur le discours, il faut le savoir. On est formé à ça. Et bon, peu à peu, avec des interventions sur le corps, mais pas dans une communication sur le corps véritablement. Hein. C'est plus pour utiliser le corps comme traitement que pour utiliser le corps comme modalité relationnelle quand il est fait appel actuellement aux thérapies corporelles. Donc c'est un vrai problème. Par contre, la question qui avait été évoquée tout à l'heure du travail avec les aidants se déploie considérablement avec des difficultés. Je prends l'exemple de l'éducation thérapeutique. Les textes prévoient l'éducation thérapeutique pour la personne porteuse d'une maladie. Elle ne prévoit pas l'éducation thérapeutique pour les aidants. Et on a des programmes dans le handicap psychique qui s'adressent directement aux aidants, puisque pour pallier à la non-demande propre au handicap psychique, et on n'arrive pas à les faire labelliser dans les éducations thérapeutiques. Alors, il faut utiliser, face à des textes qui sont très contraignants, et c'est normal qu'ils soient contraignants parce que c'est le bon usage de l'argent public. Mais derrière ça, il faut pouvoir utiliser une intelligence collective pour atteindre le but qu'on s'est fixé et pas rester restreint par les textes. C'était pour ça que je ne voulais pas être enregistrée.
J'ai rien entendu.
Donc cette intelligence collective...
Je me permets juste de vous couper, oui. Je ne peux pas m'en empêcher. Mon prédécesseur, par rapport à tout ce que je disais précédemment, je lui dois énormément, le prédécesseur auquel j'ai succédé au sein de la structure, disait toujours une chose, il disait « l'acte clandestin précède le droit ». Et c'était génial, quoi. Parce que les expérimentations, les collaborations, on les a démarrées comme ça, clandestinement, entre guillemets. Et derrière, vous apercevez que tout à coup, y compris, bien évidemment, l'ARS ou d'autres financeurs se disent « tiens, c'est intéressant ce que vous êtes en train de faire là ». Puis ça, on va regarder de plus près.
Non,
l'acte
non,
clandestin
pas,
précède
non,
le droit.
Pas clandestin du tout, l'acte intelligent et l'intelligence collective. Non, non, parce que après on est vraiment en difficulté pour valider des choses importantes, mais on n'a pas réfléchi aux moyens de les valider. Donc il faut mener les deux de front. Mais par exemple, sur l'éducation thérapeutique, on dit aux gens, mais déposer des modules qui incluent l'éducation des aidants au sein d'une éducation thérapeutique plus large, et ça passera. Mais si vous déposez le module spécifique éducation aux aidants, hop, le texte nous empêche. C'était un exemple. Hein. Autre aspect des choses sur les collaborations, et ça me semble très important. Les appels à projets, qui sont beaucoup utilisés dans le médico-social, vous mettent en rivalité. Et on prend le meilleur. Quand on a fait les équipes relais, il y a eu peu de répondants. Bon. Mais on a pris le
Merci
meilleur.
Merci pour le meilleur.
Mais on a pris le meilleur. Bon. C'est un problème. En réalité, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait plusieurs équipes qui, au lieu de se mettre en rivalité, se mettent ensemble pour présenter un projet. Et ça se fait parfois. Mais pas assez, parce que le temps de présenter les projets est très contraint. Et finalement, il y en a beaucoup qui nous disent « on aurait bien voulu, mais on n'aurait pas eu le temps de se mettre ensemble, donc on l'a fait chacun de notre côté ».
Surtout quand les appels à projets sortent pendant l'été.
Mais si bien sûr,
c'est ce que j'allais dire.
Fréquemment pendant l'été. Alors, vous savez pourquoi ils sortent pendant l'été ? Parce que les budgets arrivent au mois de
avant
mai
l'été.
Et qu'on se dépêche de les sortir pour les sortir et dépenser l'argent. Mais c'est un cercle vicieux.
Non, non, mais c'est très intéressant d'avoir ces aspects-là, ces informations-là.
Décide de l'ONDAM au mois de novembre, qu'après on fait les comptes, qu'on répartit et que ça nous arrive très tard et qu'on ne sait pas de combien on va disposer pour des appels à projets, même s'ils sont programmés dans le temps. Ouais. Voilà.
Si donc, je peux me permettre de faire une réflexion, je pense qu'il serait tout à fait judicieux, si l'on veut permettre une véritable coopération sur ces projets, d'avoir un délai plus conséquent.
Je suis entièrement
d'accord.
Trois
mois pour se mettre ensemble, c'est impossible.
Je suis entièrement d'accord. Donc, voilà. Mais c'est pour expliquer que le problème, il est systémique. Et quand on est dans une dimension systémique, bouger les choses, c'est pas facile. Voilà.
Mais je trouve que merci pour toutes ces précisions et ces éléments d'information. Je pense que c'est très important d'avoir une vision justement du cadre contraignant dans lequel nous sommes placés. Et je trouve que dire qu'il faut faire preuve d'imagination, d'expérimentation, je retiens quand même l'idée de l'acte clandestin. Je trouve qu'il y a des choses à creuser sur ces aspects-là. Voilà, ça nous montre quand même comment on peut essayer de faire bouger le cadre. Alors peut-être un dernier rapport pour cette table ronde. On a évoqué un certain nombre de projets. Vous avez évoqué très rapidement un projet de télémédecine. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'aller là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce que met en place le CESAP, enfin, auquel participe le CESAP, en termes d'exemples peut-être de dispositifs mettant en œuvre des coopérations et mettant en avant une ressource au bénéfice justement de plusieurs acteurs.
D'un territoire large.
Et sur un territoire large.
Alors, tout à fait. Mais avant de parler de la télémédecine, je voudrais juste rebondir sur deux, trois aspects par rapport aux informations précédentes. Il va y avoir un travail prochainement publié par la HAS sur les troubles du comportement perturbateur chez la personne cérébro-lésée qui va tous nous intéresser, auxquels j'ai participé à titre modeste, et qui montre là une véritable coopération parce qu'il y avait dans ce travail des acteurs de tous les mondes. C'est-à-dire que là, la HAS ne s'est pas contentée d'aller chercher les médecins dont je fais partie, mais a interpellé différents professionnels, y compris dans le monde médico-social. La question était de mettre en exergue toutes les approches. Et sur cette question-là, d'ailleurs, la question de la dépression a été soulevée et toute une série d'éléments devraient nous aider. Bon, ça, c'est un point. Le deuxième point, il existe de nombreux réseaux qui se mettent en place, pour répondre à une suggestion, notamment, par exemple, le réseau Rhapsodif en Ile-de-France, qui est financé en grande partie par l'ARS d'ailleurs, et qui permet
sur l'hygiène bucco-dentaire,
qui permet d'aller former dans les établissements, d'initier la formation aussi des professionnels libéraux et de dégager des fonds nécessaires à ce type de prise en charge complexe qui demande du temps. Donc on a là les trois aspects qui sont mis bout à bout. Je pense que dans le même sens, on travaille beaucoup, avant de parler de la télémédecine, avec l'HAD. Et il y a le terme de coopération est aussi là véritablement en action. On est en train de se mettre ensemble, je dirais, de développer des partenariats, de développer des rencontres entre nos établissements et l'HAD. L'HAD, ça n'est pas que la fin de vie. L'HAD, c'est une hospitalisation à domicile qui peut permettre de maintenir la proximité de la présence de l'hospitalisation, soit dans l'institution, soit dans la famille. Et ce système-là devrait permettre à nos jeunes de bénéficier de soins, de maintenir la continuité des soins tout en restant dans leur établissement. Mais bien sûr, ça nécessite une acculturation et un partage des responsabilités au sein même des structures. Quand vous avez une équipe d'HAD qui doit travailler avec l'équipe du médico-social, il faut savoir qui fait quoi, comment on s'organise, qui est responsable. C'est une nouvelle forme de culture.
Pour la sécurité des soins, des systèmes de communication, y compris informatiques, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Ça va faire le lien avec la télémédecine.
Voilà. On arrive sur le troisième point, qui est effectivement celui des systèmes de communication partagés avec la problématique du secret médical ou du secret partagé, de la problématique de l'informatique et de ses difficultés. La CNIL nous aide beaucoup. Nous avons mis en place un projet dont j'ai parlé hier soir dans un atelier de télémédecine au service des personnes polyhandicapées dans l'Île-de-France. 9 établissements médico-sociaux, deux services de neuropédiatrie, bientôt 5. Neuropédiatrie parce qu'on s'est adressé aux enfants et que c'était le coordinateur des soins. Ce projet répondait à un appel à projet de l'ARS Île-de-France. Il se met en place sur 3 ans. il devrait permettre d'améliorer la communication entre les différentes parties, avec la famille en première ressource, c'est clair, c'est le point clé, mais aussi la mise en commun des expertises, des structures et de la neuropédiatrie. En d'autres termes, on aura une visioconférence avec l'enfant, les parents, les professionnels de terrain et le neuropédiatre. Pas tout le temps, bien sûr, que le neuropédiatre devra avoir au préalable examiné et connu l'enfant, mais ça permettra un véritable dialogue sur des questions bien précises quant à l'évolution d'un traitement, l'évolution du suivi, la mise en place de la continuité et pouvoir réexpliquer à l'équipe, aux familles, avoir l'information en temps et en heure. C'est un énorme travail.
Oui, et on est très en retard là-dessus. Les pays qui ont moins de ressources médicales ou qui sont plus vastes que nous ont été obligés de faire ça depuis des années. En Australie, ils n'avaient pas le choix. Et ils le font très bien. En France, on a encore à se poser des questions de responsabilité juridique sur ces téléconsultations. Qui prend la responsabilité? Le médecin de l'IME, le médecin de la consultation spécialisée, qui est le responsable de l'acte s'il y a une erreur? On a des systèmes d'information multiples, il faut les homogénéiser. Enfin, on n'est pas encore très fort. Mais c'était une des voies sur lesquelles la stratégie nationale de santé insiste énormément, et au niveau de l'agence régionale aussi.
Alors, je tiens à repréciser que ça n'est pas une substitution du sanitaire qui pourrait gérer le médico-social, que l'on ne va pas passer d'un médecin de papier ou un médecin informatique à distance de la personne en situation de polyhandicap. C'est vraiment une mise en commun des expertises et pas un remplacement, et ça, c'est fondamental.
Mais ça débouche sur une nouvelle clinique, en fait. Moi, j'ai vu des praticiens qui parlent de cette expérience en disant que par téléconsultation, ils se mettent à voir des choses qu'ils ne voyaient pas. D'abord parce que dans leur cabinet, les personnes sont en situation d'être invitées et ne sont pas dans leur environnement normal. Ils ne sont pas accompagnés de leurs éducateurs ou même de leur famille dans une situation... Parce qu'il y a aussi des systèmes qui se passent à la maison, hein, avec l'HAD, on peut avoir aussi des systèmes de téléconsultation. Et on trouve une clinique qui oscille aussi sur un mode de communication visuelle plus important est différente.
Merci pour cette présentation. Bon, le temps est court, hein, on a déjà pris un petit peu de retard. L'idée, c'était de pouvoir montrer, de mettre en avant quand même des exemples de coopération, des exemples de ressources qui se mettent en place. Moi, je retiens les difficultés liées au respect des réglementations, au respect des aspects juridiques que vous venez de citer, hein, sur la question des secrets médicaux, secrets partagés, etc. On voit qu'on a un certain nombre de contraintes, mais que pour autant, on peut essayer de faire de mettre en place des dispositifs qui sont transversaux. Je cite juste très rapidement le travail qui va venir sur la question des équipes relais handicap rare, qui va être justement une très bonne expérimentation sur des dispositifs qui doivent être transversaux et qui doivent s'appuyer sur les ressources de multiples établissements au service des parcours des personnes. Et je crois que l'avenir, justement, quand on parle de coopération et de ressources, c'est d'aller sur ces dispositifs-là qui font voler un petit peu en éclats les frontières, les murs de nos institutions, de nos établissements. Il faut qu'on soit en capacité de mettre en commun, en collectif, les ressources que l'on a tous. Joseph Jofanek, vous voulez peut-être commenter ?
Merci beaucoup. J'allais dire, j'ai beaucoup apprécié le passage sur la télémédecine. Mais si j'ose dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore un peu plus loin ? L'éminent professeur Coluche, que vous connaissez, avait déclaré, il avait le sens de la formule, je crois, le flirt, c'est, il faut pour aller plus loin, il faut aller plus près. Est-ce qu'il n'en est pas de même en matière médicale ? Nos amis québécois, par exemple, les psychiatres québécois, ce sont avant tout des copains. Ce sont des coachs. Vous pouvez leur envoyer un mail à 22h du soir sur le mode « Je suis triste, comment faire ?» Il ne faudrait pas que la médecine se pratique en cabinet. La médecine, ça se pratique pendant le repas, ça se pratique pendant l'escalade ou pendant la balade le long dans le parc ou que sais-je. Je le dis de manière délibérément provocatrice. Mais j'allais dire, c'est presque une petite révolution culturelle qu'on pourrait pouvait imaginer naturellement à long terme, parce que j'allais dire, il y a toutes sortes d'obstacles plus psychologiques que financiers, et en l'occurrence psychologiques, pas forcément du côté du patient, comme on dit, cet horrible terme qui me fait toujours frémir. D'ailleurs, quand vous avez affaire à un collègue québécois, si vous lui dites patient, c'est une insulte pour lui, il a des clients. Bon, ceci étant, j'allais dire, si vous permettez, j'ai beaucoup aimé la notion d'acte clandestin. Après tout, être handicapé, n'est-ce pas être un peu dans la clandestinité, dans le hors norme, pour ne pas dire, comme mon illustre voisin, hors la loi, que sais-je. En tout cas, il y a, je crois, une grande joie dans la vie d'un jeune ou moins jeune porteur de handicap, c'est de faire mentir les pronostics médicaux et autres pronostics aussi. Je connais une maman, une amie chère, et elle a donc un fils à qui les plus éminents spécialistes avaient fait les pires des pronostics, hein. Et maintenant, donc on lui pronostique qu'il ne saura jamais parler, enfin ni manger, ni rien du tout. Maintenant, fiston, il est en hypocagne. Et donc à chaque fois qu'il reçoit un bulletin de notes, la maman, elle active la photocopieuse, elle envoie des copies, des bulletins à tous les anciens spécialistes. Bref, j'allais dire, en matière, je dirais, de pronostic, c'est comme en matière de pronostic boursier ou de météo, c'est souvent l'inverse qui se passe. Et c'est heureux, finalement. L'éminent professeur Coluche, si j'ose le citer à nouveau, disait, quand t'as fini de surprendre, c'est que t'es mort, quoi. Et je crois qu'en matière de handicap, hein, on a à peu près tout ça. Et si j'ose terminer ce petit baratin, hein, je crois que j'ai un petit conseil général à partager avec vous. C'est pas sur le plan politique, quoique méfions-nous de la normalité. Hein. C'est, la normalité peut être un peu dangereuse. Hein. On en voit parfois les effets. Non, j'ai rien dit. Pardon, merci.
Merci beaucoup.
Merci, merci à tous les intervenants. Merci. Joseph nous apprend à regarder la vie avec d'autres mots et d'autres regards. Je vous suggère une grève de notre jargonnage. À partir d'aujourd'hui, plus personne n'utilise le mot projet de vie déjà. D'accord. Bien. Alors, en appelant à la tribune notre ami Luc Bolland, juste un mot pour dire que la dernière Assemblée générale de la FISAF a changé ses statuts. La FISAF ne s'appelle plus Fédération nationale pour l'insertion des personnes sourdes et personnes aveugles en France. Elle s'appelle désormais Fédération nationale pour l'inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel, troubles du langage et des apprentissages et handicap associé. Le F est resté. Il a changé un petit peu de lui aussi. C'est plus France. C'est parce que depuis que nous travaillons avec nos amis québécois et belges, c'est francophonie. Merci. Luc, à toi.
Un grand merci, Monsieur Bicari. Je vous rassure, je vais tenir mon timing parce que je lui ai fait peur quand il m'a dit « Vous avez une heure » et que je lui disais que j'avais parfois l'habitude d'occuper le terrain pendant 2 ou 3 heures. Donc, je vais être relativement... je vais m'en tenir à mon timing. Alors, je me présente. Donc, je m'appelle Luc Bolland. Je suis au départ, je devrais dire, réalisateur de fiction et de documentaires. J'ai travaillé avec Roland Magdan, Catherine Jacob, j'ai été assistant dans des films auprès de Deneuve, avec Deneuve, Pierre Richard, Denis Lavant et d'autres. Et voilà, et puis la vie a voulu qu'arrive dans ma vie un petit bonhomme assez particulier qui s'appelle Lou, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, et qui est un petit bonhomme hors norme et porteur d'une déficience assez rare. Je vous propose, pour être assez dynamique et ne pas tenir non plus la parole trop longtemps, de juste vous introduire un peu qui est notre bonhomme par le début du documentaire que j'ai réalisé qui s'appelle Lettre à Lou. Donc voilà, c'est une petite présentation.
Mon petit loup, mon petit prince. Ce film raconte l'histoire des 6 premières années de ta vie, celle d'un petit garçon aveugle et différent dans sa tête. C'est l'histoire d'un combat quotidien pour te donner l'envie de sortir du monde que tu t'es créé pour te protéger. le nôtre te fait peur et te semble bien trop compliqué, trop agressif, trop exigeant. L'histoire de ta vie à travers mon regard de papa et de cinéaste. Tu es né le 12 août 1998, la nuit des étoiles filantes. Je m'amuse souvent à imaginer que tu es venu de l'une d'elles, qui a choisi d'atterrir dans notre jardin.
Coucou.
Coucou.
Il est où?
Il est où, tu crois? Il est là.
Il ouvre un œil. Mmh. Rapport à lui.
Alors ça vous fait quoi?
Ça nous fait drôle.
Ça fait drôle. Hein.
Toi aussi c'était comme ça. Et après, le cordon il va partir, ce blanc là, il aura un nombril comme tout le monde. Tu vois, il a un petit zizi parce que c'est un petit garçon.
Ouais.
Les premiers jours, rien ne nous annonce que ta planète est si différente de la nôtre.
Le premier petit déjeuner à 5. Oh, le loup qui fait sa première maladie aussi. Voilà le petit loup. On l'aura vu.
Tu as 3 semaines lorsque nous comprenons que quelque chose ne va pas. Ton absence de réaction visuelle devient évidente.
Le côté loup. Tu sens le loup, il y a Jeanne qui te touche, hein? Il y a Jeanne à côté de toi. Oui. Oui, oui.
Et puis, il y a cette soif permanente, de jour comme de nuit. Les examens se succèdent sans résultat. Trois mois plus tard, une résonance magnétique permet enfin de poser le diagnostic. Votre fils est atteint d'une malformation congénitale très rare du cerveau, un cas sur 10 millions. C'est une maladie orpheline qui s'appelle le syndrome de dysplasie septo-optique. Je vous explique. Votre fils a les nerfs optiques atrophiés, il est donc aveugle. On s'en doutait. C'est aussi à cause de ce syndrome que Lou a toujours soif. Il a une hypophyse sous-développée. Pardon? L'hypophyse est une glande dans le cerveau qui régule tout le système hormonal. Dans le cas de Lou, elle n'est pas assez développée. Par conséquent, son corps ne retient pas l'eau et il se déshydrate très vite. C'est fréquent avec ce syndrome. Mais rassurez-vous, cela se contrôle très bien par une prise quotidienne de médicaments et des examens réguliers. Une dernière chose encore, Lou n'a pas de septum. De quoi? De septum. C'est une membrane qui sépare les deux hémisphères du cerveau et dont on ne connaît pas bien encore l'utilité.
Certains enfants grandissent normalement sans cette membrane, mais d'autres enfants souffrent d'un handicap mental plus ou moins sévère. Il est impossible aujourd'hui de déterminer les futures capacités intellectuelles de Lou. Au plus tôt, un diagnostic pourra être posé à l'adolescence.
Voilà. Alors, M. Bicari m'avait demandé, quand je lui demandais quel devait être le sens de mon intervention aujourd'hui, il m'a fait sourire quand il m'a dit « J'aimerais que vous témoigniez en tant que parent sur l'espace du possible ». Effectivement, quel est l'espace du possible quand arrive une telle aventure dans votre vie? Il y a eu déjà des choses qui m'ont très fort interpellé, intéressé dans tout ce qui a été dit dans la première table ronde, la seconde aussi, mais surtout dans la première au niveau du témoignage et du vécu des parents, et j'y reviendrai après. Mais je voudrais d'abord dresser un peu le portrait de notre petit bonhomme, qui est un petit bonhomme absolument hors norme à son niveau. Aujourd'hui, il a 16 ans, donc le temps a passé. Et effectivement, c'est un petit bonhomme qui a une déficience mentale. Je préfère employer le mot « différence », non pas pour nier ses difficultés et les obstacles qu'il rencontre dans la vie, mais parce que, paradoxalement aussi, il a développé ce que d'autres enfants porteurs de ce syndrome développent parfois, qui est un talent musical absolument exceptionnel. Je vous en montrerai un extrait à la fin de mon intervention. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que quand j'ai réalisé ce documentaire, Lou avait 5 ans, et 5-6 ans. Et donc, au début du film, quand vous le voyez tapoter sur son piano, c'est le jour de ses 6 ans. C'est le jour où on lui offre son premier synthétiseur, ayant compris déjà depuis un petit temps, on s'est même peut-être mis trop tard, qu'il avait d'évidents dons musicaux et des dons de rythme et ce genre de choses. Et donc voilà, et donc dans le film, l'extrait que vous voyez, c'est le jour de ses 6 ans quand il reçoit son premier synthétiseur. Et un an et demi après, sans aucun professeur, sans rien, il jouait de ses 10 doigts. Et ce n'est pas le seul enfant porteur de ce syndrome. D'ailleurs, c'est assez étonnant, il n'y a pas plus tard qu'un mois, j'ai reçu un appel d'une maman canoise. Qui me disait, ayant découvert de nombreuses vidéos de Lou sur Internet, qui me disait « Je viens d'enfin poser le diagnostic de mon enfant, enfin de ma jeune fille qui a 18 ans, et ce pour lequel aucun diagnostic n'avait été posé, mais qui jouait du piano au même titre que Lou, avec une aisance absolument étonnante. » Et donc voilà, l'aventure avec Lou, Lou c'est quoi ? C'est un don musical assez étonnant. Il est capable de reproduire instantanément n'importe quelle musique entendue, de les mémoriser, mais de manière incroyable. C'est entendre un disque ou un CD ou une chanson à un moment donné et l'exhumer de sa mémoire 2 ans après, sans aucune hésitation, et de jouer intégralement le morceau. C'est un tas de choses. Il est capable de transposer, pour ceux qui connaissent un peu la musique, il est capable de transposer n'importe quelle musique sans aucune hésitation, alors que le doigté va être différent, vu que les accords vont être différents, et ce genre de choses. Et donc voilà, au-delà de ce talent musical, c'est clair que Lou a d'énormes obstacles au niveau de son mental. C'est clair, c'est un petit bonhomme qui a des difficultés de concentration colossal, mais réellement colossal. L'apprentissage de la canne, tous les 20 mètres, vous devez lui dire « Lou, ta canne ». Sinon, hop, sa canne va commencer à la promener dans tous les sens. L'apprentissage est quelque chose d'extrêmement douloureux et difficile pour lui, dû à ses problèmes de concentration aussi. Et voilà, de nouveau, c'est un syndrome qui est tellement rare qu'il n'existe quasi rien sur la littérature et sur les explications du schéma mental de ces enfants. C'est moi, par déduction et en discutant avec le neuropédiatre, fort heureusement, que j'ai croisé sur notre chemin et qui s'est très fort investi dans la fondation que j'ai créée pour créer un document à l'attention des familles, parce qu'il n'y avait rien qui existait en francophonie à ce niveau-là, que j'en suis arrivé à certaines conclusions. Et ces conclusions valent ce qu'elles valent. Je ne suis pas médecin, c'est très clair. Mais donc, quelque part, cette fameuse absence de septum pellucidum, quelque part, manifestement, parce qu'apparemment, on n'en sait encore rien au niveau neurologique aujourd'hui, on le subodore, ce septum pellucidum, avec le corps calleux, l'hypothalamus, etc., serait le nœud de communication entre les deux hémisphères. Et si je schématise et simplifie je vulgarise très fort les choses, mais vous avez quelque part l'hémisphère droit qui est quelque part l'aire émotionnelle, récréative, créative, et de l'autre côté, vous avez le rationnel. Et c'est vrai que notre petit bonhomme, ben, il vit totalement dans la sphère émotionnelle, récréative, créative, et le rationnel est 10 mètres au-dessus de sa tête. Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Mais ne lui demandez pas, encore aujourd'hui. Oui, il va vous dire qu'est-ce que tu voudras faire plus tard. Oui, être chanteur. Mais apprendre à être autonome, à savoir s'habiller tout seul, à se déplacer tout seul, à avoir de l'argent. De l'argent, pourquoi faire? Tout vient dans mes mains, tout arrive comme ça. Donc c'est vraiment un petit bonhomme, mais, et qui donc sera adulte, extrêmement dépendant d'autrui. Il ne sera absolument pas autonome, c'est une évidence. Et donc voilà, c'est un parcours assez étrange, parce que nous avons dû nous-mêmes créer notre mode d'emploi avec ce petit bonhomme. Mis à part un soutien en Belgique, on appelle ça, oui, je suis belge, hein, vous avez compris, 1998-98, on est comme ça. Donc, je disais, oui, donc, mis à part le soutien d'un service d'aide précoce de ses 0 à 3 ans quand il était en intégration, la seule intégration qu'il a connue de toute sa vie dans une crèche, on avait le soutien d'un service d'aide précoce pour enfants aveugles. Ensuite, il est rentré dans une institution qui s'appelle l'IRSA en Belgique, duquel il suit son parcours depuis lors, mais avec l'énorme problème, et c'est là toute la discussion, enfin toute la difficulté et l'objet même de votre congrès, c'est les troubles associés. L'IRSA a toutes ses compétences en termes de cécité, de surdité, mais au niveau de la déficience mentale, rien. Absolument rien. Je suis désolé de le dire comme tel. Et voilà ce qui rencontre, ce qui provoque énormément de problèmes. Second problème aussi que nous rencontrons, c'est le fait qu'avec les grands discours de l'inclusion, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je suis le premier à défendre l'inclusion. Mais l'effet pervers dans une institution comme l'IRSA, au niveau de l'inclusion, c'est que tous les enfants performants vont en inclusion. Donc ne reste plus que dans l'institution des enfants avec une déficience sensorielle, un handicap mental associé et parfois même un handicap social. Et donc avec une population extrêmement difficile à gérer, déjà entre la malvoyance et la cécité, ces deux pédagogies, et vous vous retrouvez avec un instituteur pour 9 enfants, 9 adolescents. Il y a même une époque où ils ont été 18, mais là j'ai tapé sous la table. Et donc voilà, ça pose énormément de problèmes parce que finalement l'apprentissage, il ne le fait pas à l'IRSA, il le fait à la maison. Et c'est sa maman qui lui apprend le braille. C'est sa maman qui lui apprend un tas de choses hors des heures scolaires. Alors voilà, cette aventure, elle m'a amené à basculer totalement dans ma vie. Et je voudrais aborder ces aspects-là aussi. Mais tout simplement parce que, d'une part, à chaque fois que le documentaire a été diffusé en télévision, sur France 5, en Belgique et ailleurs, c'était 1200 courriels dans la boîte de réception. Et c'était un panel de la société. Et donc, qui dit panel, dit aussi un pourcentage de personnes concernées par le handicap, soit 3%. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les 3% des gens qui m'ont écrit à l'époque concernés par le handicap, j'ai été extrêmement marqué par la souffrance que les gens exprimaient, à demi-mot ou de manière vraiment écrite, sur... Mais, la souffrance liée au diagnostic et au manque total d'accompagnement. Alors, au-delà de ça, je ferai aussi une parenthèse, il y a aussi le fait que votre tissu social s'effondre totalement. Ça, je peux vous le garantir, pour avoir déjà donné un paquet de conférences et avoir rencontré des paquets de parents, je peux vous garantir que quand survient le handicap dans votre entourage, vous pouvez rayer 80% de votre carnet d'adresses. Je vous vois sourire, je ne me trompe pas. Vous pouvez rayer 80% de votre carnet d'adresse. Ce n'est pas un rejet du handicap, c'est une difficulté dans la communication. Comment vais-je dire? Déjà au quotidien, quand on apprend le décès du proche d'un ami, comment est-ce qu'on va exprimer son empathie et ce genre de choses? On est souvent dans la difficulté par rapport à ça. Donc on se dit, je vais choisir mes mots, je vais réfléchir. Et puis on réfléchit une semaine, et puis on réfléchit 2 semaines, on réfléchit 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on culpabilise, on dit, je ne peux plus me permettre d'appeler, ça ne se fait plus et j'appelle plus. Et c'est comme ça que tout le lien social se détruit et se brise. Alors, suite à ça, il se fait que nous avons décidé avec mon épouse de créer une fondation pour prévoir l'avenir de Lou, parce qu'on avait compris assez tôt qu'il serait extrêmement dépendant. L'objectif étant de créer un centre de jour axé
enfin maintenant c'est le projet qu'on développe, axé sur la musique, justement, pour des personnes déficientes. Et donc, un ami avocat qui nous a poussé à créer cette fondation nous a dit, ben, commercialise ton film au bénéfice de cette fondation. Et moi, je m'étais dit, bon, ben oui, pourquoi pas. Mais on s'est regardé Claire et moi en se disant, ben, attention maintenant, si chaque parent commence à prêcher pour sa petite chapelle et à collecter dans son petit coin, où ira-t-on ? Donc, on a élargi les statuts de la fondation en disant qu'on œuvrerait pour tout objet ou toute chose au niveau du handicap, en faisant le serment que si le DVD se vendait bien, je consacrerais, j'arrêterais le cinéma et je consacrerais un an et demi de ma vie pour un sujet que je déterminerais. Je vous parle de ça en 2006, je n'ai plus refait un film depuis. Dans la mesure où le DVD s'est extrêmement bien vendu, aujourd'hui on a plus de 7600 exemplaires, et que donc j'ai tenu ma parole, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans le secteur du handicap ? Et je me suis posé la question justement de l'annonce du diagnostic et de l'accompagnement des familles. Et j'ai commencé à chercher sur Internet de savoir ce qui se faisait en Belgique. Et il n'y avait plus grand-chose depuis 1994. Donc j'ai envoyé un mail à tout le tissu associatif en disant ben, qui a envie de se pencher sur ce sujet. Et j'ai une dizaine d'associations, dont certaines majeures, qui ont répondu présent. Et j'ai dit, bon, ben, au pas de charge, on fait un colloque en 4 mois, état des lieux, pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis, on fait des groupes de travail avec des volontaires ayant participé au colloque pendant un an, et tout sera solutionné. Oui, bon. on en est toujours avec des groupes de travail aujourd'hui, mais déjà avec des choses très concrètes qu'on a produites. Ce qui fait que donc j'ai basculé totalement, professionnellement parlant, enfin bénévolement jusqu'à il y a peu, et que donc, au-delà de la fondation Look que je porte aussi la plateforme Annonce Handicap, qui regroupe aujourd'hui 33 associations du secteur en Belgique, et qui fait tout un travail de sensibilisation, de formation auprès des professionnels, et surtout qui essaye aussi de venir en aide aux familles, pas en proximité, mais par des outils que sont un livret et ce genre de choses. J'avais amené quelques exemplaires, comme ils sont assez lourds, mais ils sont déjà tous partis. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger ces livrets au format PDF sous le site de la plateforme Annonce Handicap. C'est des outils assez précieux et paradoxalement, l'outil à l'attention des professionnels a été construit sur base d'un document de la Haute Autorité de la Santé en France. Donc, voilà, qui s'appelait Annoncer une mauvaise nouvelle. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que donc, la vie a totalement basculé à ce niveau-là. Et par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, je me suis fait quelques petites réflexions, quelques petites choses que je souhaitais vous dire par rapport à ça. La première chose, on parle toujours du diagnostic de handicap. Et ça, c'est la première chose qui, moi, depuis le début, me heurte. Il n'y a rien qui vous choque dans cette terminologie annonce du handicap, qui est le lieu commun, hein, le mot commun que tout le monde utilise. Hein. D'ailleurs, on s'appelle plateforme annonce handicap. On n'avait pas le choix, sinon personne ne nous identifierait. Cette terminologie est totalement erronée, est un raccourci total. C'est avant tout une annonce d'un diagnostic de déficience. Et déjà, la déficience, c'est selon des normes, hein, Joseph, on sera d'accord, et dont les conséquences seront le handicap. Donc, c'est dire que si, à un moment donné, quand on parle d'annonce de handicap, ben, on vous annonce déjà les conséquences. On vous annonce déjà toute la souffrance, tous les obstacles, toutes les épreuves de la vie, tous les problèmes que vous allez rencontrer avant toute chose. Et c'est assez étonnant, parce que c'est un nom commun et on est tous d'accord sur cette terminologie-là. Première chose. Deuxième chose, et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut avoir vraiment bien conscience, il n'y a pas une annonce. Il n'y a pas une annonce. Il y a toute une série d'annonces tout au long du parcours d'une vie d'une personne en situation de handicap. Et ça pose de nouveau toute la question de la nécessité absolue d'un accompagnement des personnes et de leurs familles. C'est fondamental. C'est fondamental de pouvoir avoir un fil rouge, un fil conducteur d'un professionnel ou de plusieurs professionnels qui d'abord doivent se parler. Et là, je relevais ce qui avait été dit tout à l'heure, la grande difficulté parfois de spécialistes de communiquer entre eux. Trouver le temps, et ce n'est pas une critique. Le travail de la plateforme se fait main dans la main entre des parents, des personnes en situation de handicap et des professionnels, dont des médecins, des psychiatres et autres. On se tend vraiment la main parce que l'obstacle, la souffrance existent des deux côtés. Et le gros problème lié aux professionnels, c'est que voilà, vous faites vos consultations, vous faites ensuite vos dossiers, etc. Quand avez-vous encore le temps d'aller communiquer avec vos collègues? Il y a un réel problème existant à ce niveau-là. Désolé, mais avec mon âge, on passe aux lunettes. Donc voilà. L'autre chose aussi, c'est c'est la chose qui est flagrante au niveau d'un diagnostic, c'est qu'on parle toujours d'une bouteille à moitié vide. On va toujours commencer à vous parler de ben, « votre enfant n'a pas ceci, n'a pas cela, n'a pas cela, n'a pas cela, n'a pas cela ». On va rarement, si pas jamais, vous parler des potentialités et du possible. Et c'est quelque chose de fondamental. C'est fondamental. Le brave neuropédiatre qui nous a posé le diagnostic, et Dieu sait, je ne me suis pas engagé dans le sujet de l'annonce du diagnostic parce que nous avons eu une mauvaise annonce. On a eu une excellente annonce en présence avec une assistante sociale, un psychologue et le médecin. Donc on n'a vraiment pas eu à se plaindre. La seule chose, c'est que moi, j'ai fait une fixation. Le médecin est devenu l'oiseau de mauvais augure. Point. Chacun réagit à sa manière et ça a été ma réaction personnelle. Donc voilà. Du coup, je perds mon fil. Oui, la bouteille et les compétences. Bon, bien sûr, le syndrome de Morcy ou dysplasie septotique est extrêmement rare. Je dis dans le film un cas sur 10 millions, les chiffres officiels parlent d'une naissance sur 15 000. Mais il y a des variabilités telles dans ce type de déficience que les cas de 1 sur 15 000, c'est essentiellement des insuffisances de l'hypophyse et donc des insuffisances d'hormones de croissance ou d'hormones sexuelles qui se découvrent à l'adolescence. Mais les cas sévères comme Lou, et il y a encore des cas beaucoup plus sévères, sont de l'ordre de 1 pour 10 millions à peu près dans la réalité. Et donc voilà, c'est clair qu'un neuropédiatre, vu les centaines, si pas les milliers de maladies neurologiques, hein, on parle de 7000 maladies orphelines, je ne sais pas quel est le pourcentage de maladies liées au système nerveux, mais ça représente un énorme quota là-dedans, c'est clair qu'un neuropédiatre ne peut pas connaître toutes les déficiences. C'est déjà un premier problème qui se pose. Et en regard de ça aussi, ben, voilà, le diagnostic, il va se baser sur une littérature. Et cette littérature va toujours s'appuyer sur les moins et jamais sur les plus. Or, les enfants, par exemple, qui développent ce talent musical, ils sont nombreux. J'en connais 4 aux États-Unis, dont 3 qui font des concerts, comme mon bonhomme qui commence à en faire. J'en connais une dans, maintenant à Cannes, en France, qui donc m'a appelé en me disant je viens enfin, à 18 ans, de poser le diagnostic de ma fille en voyant votre enfant sur YouTube. Voilà. Et donc, le possible, le potentiel est quelque chose de fondamental. Et c'est essentiel de, à un moment donné, aller chercher les compétences des gens. On a tous des compétences à quelque niveau que ce soit. Et donc, il faut essayer de renforcer les familles et les personnes à ce niveau-là. J'ai, au-delà de la Fondation Lou, de la plateforme Annonce Handicap, une troisième casquette depuis maintenant 4 ans, comme si je n'avais que ça à faire. J'ai lancé aussi un festival international de films sous le thème du handicap pour garder un peu mes racines de cinéaste. Et je vais chercher à travers le monde, et je collabore avec 10 festivals internationaux sous la même thématique à travers le monde, et on s'échange nos catalogues. Et donc, tous les 2 ans, en Belgique, j'organise cet événement. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je baigne maintenant, je mange du handicap du matin au soir et même quand je rentre à la maison. Et quand dans la sélection qu'on a faite en 2013, j'ai sélectionné un film mais absolument époustouflant que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Véronica. Le K, c'est K-A à la fin. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si je vous dis que ce film est un texte, parle d'une autiste profonde, infirme motrice cérébrale. Vous vous dites, il n'y a personne en face. Il n'y a personne en face. Eh bien, ce film est une démonstration absolument brillante du contraire. Une démonstration incroyable. Pendant 6 minutes, cette fille vous écrit un poème avec sa maman qui guide sa main sur un alphabet, sur une plaque en carton. Et elle vous explique son ressenti. Le ressenti de son corps, son ressenti par rapport au monde et son sentiment de fragilité absolue qu'elle associe à du sable qui s'échappe, qui ne parvient pas à être maîtrisé. C'est un film absolument incroyable. Alors, je vous disais, je baigne dans le handicap, donc pour moi, je savais ce qu'était un infirme moteur cérébral. J'en croise régulièrement et ce genre de choses. Je me disais que je pensais que je savais, que je connaissais. Ben non, je ne connaissais pas. Et donc, voilà, de nouveau, le potentiel, le possible. Cette personne, je m'excuse d'employer un terme un peu brutal, apparaît comme une plante aux yeux de l'humanité. Et c'est une écrivaine absolument brillante. On a tous des potentialités. Absolument tous. Et tout l'enjeu, c'est toute la question. Et alors là, on peut déborder sous la question de l'enseignement ou ce genre de choses. La question, c'est de se dire, ben, allez, comment aller chercher les potentialités des uns et des autres. Alors, que dire encore? Oui, au niveau de, au niveau des choses justement, si j'ai appris quelque chose au contact de mon bonhomme et au contact du secteur du handicap depuis maintenant 8 ans, c'est, je résumerai quelque part en 3 phrases, enfin 4 phrases relativement simples et qui de nouveau touchent l'ensemble de l'humanité, aussi bien nous, parents, les personnes en situation de handicap ou les professionnels et donc aussi le grand public, c'est simple. C'est simple et emblématique. La première phrase, c'est que la déficience, c'est le miroir de notre propre fragilité. J'explique très simplement. De la même manière qu'enfant, un jour, on réalise qu'on est mortel, un jour, on prend conscience de ça. Et d'ailleurs, je défie quiconque dans la salle peut-être de se souvenir de cet instant-là, dans la petite enfance. C'est quelque chose qu'on évacue de sa tête. C'est quelque chose qu'on évacue parce que sinon, on ne pourrait plus vivre. On ne peut pas à tous les instants se dire « je peux mourir demain » parce que, ça, effectivement, ça nous pend au nez pour des raisons X, Y, Z. Et en regard de ça, ben donc, la mort, on ne veut pas la voir. Eh bien, quelque part, la déficience, ça nous pend au nez aussi. Et donc, quelque part, on n'a pas envie de voir la déficience et le handicap. Ce qui génère déjà une première forme, je dirais, de rejet ou d'écartement de la personne handicapée en situation de handicap dans la société. La deuxième phrase, la différence, c'est le miroir de nos peurs face à l'altérité, la peur de l'autre. On en est toujours aujourd'hui, au XXIe siècle, à vivre avec notre cerveau reptilien qui fait que soudain, on se retrouve comme un chien face à un chat. Ah, c'est pas comme moi, ça me fait peur. Ou bien quelque part, on se retrouve aussi face à un miroir d'une potentialité. Et donc, la personne handicapée, ben mon petit bonhomme, j'ai connu les regards dans la foule, parce que quand il est comme ça en train de faire ses petits gestes de réassurance ou ce genre de choses, ou qu'il était dans sa petite enfance, dans son blindisme, en train de faire des mouvements avant et arrière, c'est clair que vous vous ramassez les regards interrogateurs des gens. Je n'ai jamais rien eu contre ces regards. C'est normal. Si j'étais arrivé en kilt, vous m'auriez tous regardé bizarrement en disant « c'est qui ce personnage qui arrive en kilt ?» Ben, paradoxalement, en Écosse, ça ne vous aurait pas étonné. De nouveau, donc, ça pose toujours la même question des valeurs et des regards qu'on peut se poser. Et donc voilà, le handicap, ça fait peur parce que c'est l'autre. Et de nouveau, c'est assez emblématique parce que ça pose toutes les questions liées au racisme et à ce genre de choses. Troisième phrase, l'incapacité, c'est le reflet de nos valeurs. Je prends un exemple très simple. Je suis réalisateur de films. Je désigne quelqu'un au hasard dans la salle qui n'a jamais fait de film. Je lui donne une caméra. Je lui dis « tu as 1 semaine pour faire un film ». Quand elle va venir me montrer sa réalisation, si je me base sur mon unique critère de mes compétences, cette personne sera totalement incompétente. Inversement, ne me demandez pas de faire une opération à cœur ouvert, vous pouvez déjà amener le patient à la morgue immédiatement. Et c'est logique, je n'ai pas les compétences à ce niveau-là. Mais on est toujours dans un rapport de valeur par rapport à ça. Et de nouveau, ça nous interroge au quotidien. On est dans une société du qui se ressemble, ça semble. Et ça, c'est de tout temps de l'humanité. Un amateur de littérature qui dévore des livres ne va pas aller dans un café d'un club de football en plein match projeté à la télévision pour lire son roman. Et inversement, un supporter de foot ne va pas aller boire un verre dans un café littéraire. On est tous dans l'association, dans notre vie quotidienne. Et donc, quelque part, par rapport au handicap, ben, de nouveau, il y a ce côté, ben, non, je ne peux pas m'associer à ça parce que ce n'est pas comme moi, d'une part. Et quelque part, je ne retrouve pas les compétences et les capacités de la personne qui se trouve face à moi. Or, je vous dis, chaque personne a des capacités, des compétences. Et c'est tout le problème qui se pose en regard de ça. Et c'est ces 3 facteurs, déficience, incapacité ou capacité et différence, qui quelque part génèrent ou provoquent le handicap, voire le surhandicap. Si on effaçait ces 3 mots-là, la société serait totalement en accessibilité et en accueil pour tous. Mais bon, voilà, ça c'est un rêve ou un vœu pieux. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ça va, je vais pas trop vite. Je passe. On m'a dit que mon temps était limité, donc je vous bombarde un petit peu. Oui, voilà. La dernière chose aussi que je tenais à dire, c'est un aspect très simple aussi. Il faut savoir que ce soit en Belgique ou en France, que 95% des lois, des centres, des maisons de vie, des écoles ou ce genre de choses à l'attention de personnes en situation de handicap ont été créées par initiative de parents ou de personnes en situation de handicap. Alors quelque part, c'est tout à fait logique. Mais cette logique-là, elle est extrêmement fragilisée. Et je pense que si le handicap est là où il en est aujourd'hui dans nos sociétés, c'est parce que tout le système fonctionne sous forme de lobbying. Et donc de lobbying, c'est-à-dire le lobbying soit du pouvoir de l'argent, qui donne les moyens d'atteindre les cibles des décideurs, ou soit le lobbying de la rue par les manifestations ou la violence. Or, le secteur du handicap n'en a pas les moyens. Parce que donc ce sont des personnes qui elles-mêmes ont une charge, j'aime pas le terme mais c'est une réalité, une charge liée au handicap, et donc n'ont pas les moyens nécessairement de s'investir et de se battre à ce niveau-là. De la raison de l'importance que tous les professionnels soient à un moment donné le porte-parole aussi des personnes en situation de handicap, ils soient les porte-parole des parents, c'est absolument fondamental. Et alors je voudrais encore revenir sur ce qui a été dit ce matin, et ça aussi c'est un credo sous lequel je me bats sans fin, c'est reconnaître la compétence des parents. Vous ne pouvez pas imaginer dans notre parcours et dans le parcours de nombreux parents que j'ai rencontrés, comme vous êtes totalement jugés incompétents par rapport à votre enfant. C'est hallucinant, comme si le cachet de la déficience ou du handicap vous rendait soudain incapable de jugement, d'analyse, d'étude, de recul, de ce genre de choses. C'est fou. Alors, de nouveau, prenons, vous êtes nombreux à avoir été parents ou être parents dans l'Assemblée, mais souvenez-vous de vos premiers jours autour de la maternité. Mais vous étiez tous aussi incompétents, excusez-moi de le dire comme tel, c'était incroyable. C'est quoi les pleurs? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il pleure parce qu'il a soif? Est-ce qu'il pleure parce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il pleure parce que son linge est mouillé? Est-ce qu'il pleure parce qu'il a mal au ventre? Est-ce qu'il pleure parce qu'il a peur? Est-ce qu'il pleure parce qu'il est en colère? Est-ce qu'il pleure parce qu'il est triste? Ah oui, c'est ça tout le panel des pleurs d'un enfant. Pourtant, vous êtes arrivé à distinguer ça et petit à petit à devenir la personne compétente de votre enfant et donc à distinguer ces types de pleurs. Et là, caprice, c'est bon. Ou bien là, non, c'est vrai, là, il y a un problème, là, ça ne va pas. Eh bien, c'est hallucinant de voir comme en tant que parent, quand vous allez voir nombre de professionnels, pas tous, attention, je ne veux pas non plus faire une généralité, mais nombre de professionnels, soudain, on vous juge totalement incompétent. Mais non, vous savez, c'est rien du tout, c'est ceci, c'est cela. Ou vraiment, on vous dit, mais non, comment vous pouvez savoir ceci ou imaginer cela? C'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement étonnant à ce niveau-là. Or, les parents d'enfants en situation de handicap ou de jeunes ou d'adultes ont des compétences. On a des yeux comme vous, on sait observer nos enfants comme vous. Alors oui, bien sûr, des parents peuvent être dans le déni. Oui, bien sûr, des parents peuvent être dans la blessure narcissique et tout le champ émotionnel, etc. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'ils sont comme vous. Ils sont parents, ils ont à un moment donné des compétences. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est au quotidien, le nombre de fois qu'on est confronté à ça, c'est hallucinant. Et je vais de nouveau prendre un petit exemple très simple. Donc Lou a vraiment un don exceptionnel, hors norme, je dirais, au niveau musical. Et amusez-vous, allez sur YouTube, tapez Lou Bolland et vous verrez des choses qui vont vous surprendre à plus d'un niveau. On a aussi découvert, comme il adore la musique anglo-saxonne, il a souhaité apprendre l'anglais. Il est fou de langues, il adore les langues, donc il a envie d'apprendre l'anglais. Donc je me suis retourné vers l'institution où il se trouvait, en disant, écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen? Bon, au niveau de l'enseignement spécialisé en Belgique, il y a différents types, et dans les types, il y a différentes formes en fonction du degré de l'enfant. Donc Lou est en forme 2, qui se contente d'une sociabilisation, d'un apprentissage à l'autonomie et de petits apprentissages scolaires. Vous avez la forme 3, qui est l'apprentissage professionnel, et la forme 4, qui est l'apprentissage traditionnel adapté à la cécité ou la malvoyance. Donc en forme 4, il y a des cours d'anglais. Je vais voir la direction de l'école, je dis, mais est-ce que vous ne pourriez pas mettre Lou en décrochage au cours d'anglais en forme 4? Je vois, vous savez, vous vous souvenez le film Le Cerveau avec la tête, je vois immédiatement le directeur comme ça. Et avec un regard, je vous jure, en tant que parent, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas, c'est « Pauvre monsieur Bolland, vous n'avez pas encore accepté le handicap de votre enfant. » C'est effrayant. C'est effrayant. Au quotidien, le nombre de fois qu'on vit ce genre de choses, c'est terrible. Et alors, pour faire la queue et la chute de cette histoire-là, on s'est dit, bon, ok, ça va être comme le braille, ça va être comme la canne, ça va être comme autre chose, on va le faire nous. Et pour son anniversaire, on lui a offert 3 CD que j'ai trouvés sur Internet d'apprentissage de l'anglais en chanson. Idéal, évidemment. Il a dévoré en 15 jours les 3 CD. Ensuite, pour la petite histoire, on a mis en ligne, et ce sera ma conclusion tout à l'heure, enfin très bientôt, on a mis en ligne une chanson qui n'est pas une composition Lou, mais que Lou interprète et qui a fait un énorme buzz sur Internet. On a plus d'un million de vues aujourd'hui. Et qui donc a traversé les continents. Et donc, 2 mois après, je vous parle Lou, l'anniversaire, c'est au mois d'août, début octobre, coup de téléphone de la NPR, la National Public Radio américaine, donc la radio internationale américaine, qui dit « Nous aimerions bien faire un interview avec vous et avec Lou en anglais. Pensez-vous que c'est possible ?» En duplex depuis Bruxelles. Je dis « Bon, on va essayer. » Je vous jure, Lou a tenu, a tout compris de ce que la personne a dit, et c'est même pire que ça. Allez, j'ai l'extrait, je vais vous le montrer, parce que ça vaut le détour. Je dois juste retrouver ma souris. C'est ça. Ok. C'est très court, hein, je vous rassure.
I want to say, sure. I don't like my school. I think the teacher have always a tendency to be disability.
To see
the disability and not capacity. It's shame.
Boy, and that's you singing up a storm as well as playing the piano. That's a phrase we use in English, singing up a storm. It's a compliment.
Yes, very good. Thank you. You are the charmer. Charming.
Jacques Brel was Belgian too, right? You know Jacques Brel?
Oh, yes. He sing, Ce soir j'attendrai Madeleine. It's very good.
Yeah.
Voilà. Et donc voilà, ces capacités, Lou les a acquis en 2 mois. Et continue aujourd'hui à apprendre l'anglais de manière autodidacte à la maison. Il s'exprime de mieux en mieux. Donc voilà, par pitié, si j'avais un message à transmettre, regardons les capacités. Nous avons tous des capacités. Alors, pour conclure, je vais vous montrer donc cette fameuse chanson qui a fait tant de bruit sur Internet. Donc, pour information, Lou compose des musiques, mais ça n'a pas été le cas. Là, c'est mon frère qui est mélomane à 16 heures qui m'a proposé la mélodie, et puis je la trouvais jolie, et puis je me suis amusé personnellement dans mon coin à écrire des paroles pour décrire Lou. Puis j'ai fait écouter à Lou, et puis il m'a dit « Oh, c'est génial, j'aime bien cette chanson, elle me ressemble, c'est effectivement ce que je suis ». Ben, j'ai dit « Tu veux l'interpréter, tu veux la jouer ?» Et c'est comme ça qu'on a joué studio d'enregistrement. Je l'ai filmé, on a enregistré la chanson, puis qu'on l'a publiée sur YouTube. De nouveau, petite anecdote. Quand je vous disais que le diagnostic, c'est tout au long d'un parcours, Lou donc, a aussi une anosmie, il n'a pas d'odorat. Ça ne nous a jamais été annoncé ni dans le pronostic ni dans le diagnostic. On s'en est rendu compte à 8-9 ans quand, par rapport à certaines flatulences un peu odorantes, monsieur semblait totalement ignorer la situation alors que nous suffoquions complètement. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de cette réalité-là. Donc voilà, donc vous voyez, c'est ce genre de choses de parcours qu'on rencontre tout au long de la vie. Dernière chose encore que je voulais vous dire, si vous souhaitez, enfin d'une part, donc je vous disais, si vous êtes intéressé par les livrets de la plateforme Annonce Handicap, il y a des livrets de formation, de sensibilisation pour les professionnels, il y a des livrets pour les parents et les familles qui travaillent sur la légitimité des émotions. C'est quelque chose de fondamental à ce niveau-là. Nous sommes tous au quotidien à parfois nous poser des questions sur nos humeurs. Pourquoi suis-je de mauvaise humeur ce matin?
Est-ce que c'est parce que j'ai rayé mon smartphone? Est-ce que c'est parce que j'ai eu un PV de stationnement? Est-ce que c'est parce que mon fils est rentré avec un mauvais bulletin? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Parfois simplement la fatigue. Or Dieu sait si par rapport à un diagnostic défavorable tel que celui d'une déficience, on entre dans un champ émotionnel extrêmement vaste. Et donc aider les personnes et les familles à faire le tri dans leurs émotions, comprendre ce qui les habite pour pouvoir justement en sortir, c'est peut-être le premier pas qu'il faut faire. Et ça, c'est l'objet du livret qu'on a fait pour les personnes et pour leurs familles. On est en train de préparer un livret pour la fratrie aussi aujourd'hui. Enfin bref, c'est un vaste chantier. Donc ça, vous pouvez le télécharger. Si vous souhaitez acquérir le DVD Lettre à Lou, il m'en reste encore quelques exemplaires parce qu'il y a déjà des gens qui ont subtilement en ont déjà pris. Mais sinon, vous pouvez l'acquérir via le site de la Fondation Lou en envoi postal et vous l'aurez. Voilà, je vous mets la chanson Lou, je m'appelle Lou. Pardon. Trouvez ma souris. Là. Non, ça va, c'est juste que je sais. Voilà. Ah non, c'est celle-là. Hop. Erreur. Ah ben si, allez, je vous montre ça. C'est la dernière prestation de Lou, justement, qu'il a fait au mois d'octobre dans le cadre en Belgique. Nous avons un téléthon qui s'appelle Cap 48 autour du handicap et pour lequel Lou est devenu l'invité depuis 2-3 ans. Et chaque fois, il fait une prestation. Et si vous connaissez un chanteur belge qui s'appelle Arnaud, qui a un certain accent, ben voilà, monsieur Lou s'est amusé à reprendre Dans les yeux de ma mère à la façon d'Arnaud.
Je trouve ça toujours.
ovations. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de voir la chanson Lou, je m'appelle Lou, et si on m'y autorise. Oui, allez, c'est pas très long. C'est la bonne cette fois-ci.
Lou, je m'appelle Lou. Voyez, je suis fait comme vous. Si ce n'est que où que j'aille, je n'ai que mon piano, ma canne blanche et le braille. Lou, je m'appelle Lou. Voyez, je suis fait comme vous. Si ce n'est, je vous l'avoue, que dans mon trou je traîne beaucoup. Oui, j'ai peur du malheur, torpeur d'un monde en fureur. La gestion de mes émotions, à chaque tension je fais le hérisson. Je sais, la vie est relou, elle nous fout des coups de bonbons, nous entaille, dresse des murailles, nos rêves s'écaillent, quelle bataille. Je lutte contre mes tics, mes tocs et toutes leurs cliques. Certains me disent autistes, mais j'y peux rien si j'aime tant la musique. Je kiffe les harmoniques, les notes mélodiques. Quelque part, je suis un artiste, la zik et moi c'est magique. Moi, mais censé louer, toucher, qu'on vous interdit, pas d'odorat, un goût réduit, ça me donne quand même souvent bien du souci. Ainsi, est faite ma vie, je ris, je pleure, je crie, parfois je manque de courage. Quand il faut tourner la page, papa, maman me disent que personne fait à sa guise, que l'amour rend bien plus fort. C'est vrai que la tendresse est ce que j'adore. J'ai besoin de gros câlins, qu'on m'aide, qu'on me tende la main, que l'on rit. C'est ce que je kiffe pour vivre dans le positif. Lou, je m'appelle Lou. Dites-moi, ne suis-je pas comme vous? À chacun ses périls, pour chacun la vie est difficile. On a tous nos souffrances, nos peurs, nos espérances, nos fractures et nos blessures, et notre peur du futur. Vous, je m'adresse à vous, dites-moi, est-ce donc si fou de se dire qu'il y a toujours pire, qu'il faut sourire même au dernier soupir. Vous, je m'adresse à vous, il faut nous tenir debout et sans fin se tendre la main, oser se faire des câlins. Lou, je m'appelle Lou. Voyez, je suis fait comme vous. Si ce n'est que où que j'aille, je n'ai que mon piano, ma canne et le braille. Lou, je m'appelle Lou. Lou, c'est moi, c'est vous. Lou.
C'est lui, hein. C'est pas moi, c'est lui. Vous m'émouvez. Ça m'émeut beaucoup, merci. Je voudrais encore juste, je m'excuse, je suis un bavard, mais je voudrais encore ajouter deux petites choses qui sont par rapport à ça. Je parle dans cette chanson beaucoup de câlins. Et effectivement, Lou est un enfant extrêmement câlin. Et de nouveau, vu le peu de connaissances sur ce syndrome, nous subodorons qu'il y a une insuffisance de l'ocytocine, qui est une hormone justement sécrétée par les caresses. Et Lou est un petit bonhomme extrêmement affectueux, qui a besoin de toucher, qui a besoin de faire des câlins aux autres. Et en regard de ça, il s'est déjà fait plusieurs fois rabouer dans l'institution où il est. Où il est bras-dessus avec un copain, il leur dit non, ça va pas, c'est homosexuel, ça, tu peux pas. Et moi, je me révolte contre ça. Mais de quel droit mon bonhomme qui vit avec deux sens et demi ne pourrait pas être justement dans le toucher, dans le rapport? Et l'autre jour, j'ai un courtier en assurance qui vient pour constater une réparation d'un dégât des os. Lou est en train de jouer au piano. Et à ce moment donné, Lou dit vous êtes qui, vous? Et puis l'autre dit je suis le courtier en assurance de ton papa. Et à ce moment-là, Lou dit attends, viens, je vais te faire une crash. Alors une crash, c'est un câlin que Lou a inventé dans son monde imaginaire du pays Kirkay. Et alors mon courtier en assurance arrive et à ce moment-là, il vient et à ce moment-là, au courtier, il lui fait exactement ça. Avec une douceur infinie. Et je vois mon courtier en assurance fondre complètement. Et de nouveau, je me pose la question de savoir qui de lui ou de nous a raison. Voilà. Et alors, la toute dernière petite chose que je voulais dire par rapport aux explications, oui, la gestion des émotions de Lou, c'était un défi pour nous depuis le début, et on était des apprentis sorciers depuis le début. Petit, quelque chose qui faisait rire Lou, deux heures après, il riait encore. Ben oui, il n'avait pas le frein du rationnel, mais la même chose avec les peurs, les tristesses et les colères. Et aujourd'hui, on parvient par la plasticité du cerveau, par que sais-je, à progressivement gérer ses émotions. Mais voilà, c'est pour dire parfois la sacrée aventure qu'on rencontre. Merci beaucoup pour votre attention.
Bien, merci à tous ceux qui sont intervenus ce matin. Rassurez-vous, je ne vais pas faire de discours, je ne vais pas faire de synthèse. Je crois que ça serait beaucoup, beaucoup trop compliqué. Simplement, je voudrais peut-être dire trois choses. La première, j'ai retenu notamment des tables rondes de ce matin l'idée de souplesse. C'est compliqué en France de dire ça parce qu'on aime les règles, on aime les petites boîtes où on peut ranger tout le monde. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'il y a toujours des gens qui ne rentrent pas dans les boîtes. Et on a du mal à inventer ce qui permet de prendre en compte ce qui reste en dehors du cadre, ce qui se situe aux interstices. Alors, je m'autorise à dire, après 40 ans de vie professionnelle où je me suis intéressé aux règles et à la façon de les appliquer, voire de les contourner, je dirais qu'il n'est jamais interdit d'appliquer les règles intelligemment et peut-être de temps en temps de manière imaginative. C'est comme ça que naissent les expérimentations et qu'apparaissent des solutions qui précisément ne rentraient pas dans les boîtes. Je vous invite à appliquer la réglementation intelligemment et de manière imaginative. La deuxième chose que je voudrais dire, que je voudrais souligner, c'est ce que nous a fait découvrir le cinéma hier et aujourd'hui. Ça se passe de commentaires, vous l'avez tous senti. Et je voudrais ajouter à cela la prestation impressionnante de nos interprètes. Je ne suis pas compétent pour dire si elles signent bien. Mais je pense être compétent pour dire qu'on voyait la lumière dans leurs yeux. Dernière chose que je souhaitais évoquer avec vous avant de terminer, ce qui peut être une forme de conclusion. votre fédération travaille autour d'une notion qui pourrait synthétiser ce qui s'est dit au cours de ces trois jours, la notion de parcours sans entrave. C'est peut-être une voie de sortie à un certain nombre de nos difficultés. On parle beaucoup de parcours de santé, de parcours en tout genre. Il ne faudrait pas que ces parcours deviennent une chose rigide qui irait à l'encontre de la souplesse réclamée à juste titre par plusieurs intervenants ce matin. Donc je crois que c'est un sujet sur lequel nous devons travailler ensemble. Nous avons commencé à le faire, notamment avec le monde des agences régionales de santé, celle du Limousin en particulier. Mais je vais m'arrêter là et je vais laisser Pierre vous en dire un tout petit peu plus sur ce sujet du parcours sans entrave auquel nous vous invitons à travailler au cours des mois qui viennent. Donc merci à tous et je vous souhaite bon retour sur vos terres et dans vos foyers. Je cède rapidement la parole à Pierre. Merci.
Alors, bonjour pour ceux qu'on ne s'est pas encore vu ce matin. Au-delà, enfin plutôt plus particulièrement dans les travaux de la Fédération sur les parcours sans entrave, il y a un outil que nous sommes actuellement en train de développer, de porter au niveau du siège et à destination de l'ensemble des adhérents, qui est un outil avec deux portées et qui part de trois constats. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Le premier constat est celui des gens qu'on remarque particulièrement bien sur des moments comme ces deux jours de congrès, notamment sur la journée d'atelier d'hier, sur le besoin, la nécessité, la richesse des échanges qui ont eu lieu entre professionnels et dans les ateliers. Avec nous, notre volonté de permettre, au-delà de ces temps d'échange que sont les congrès, que sont les séminaires que l'on peut faire dans les interrégions, de favoriser, de permettre ces échanges entre professionnels. Le deuxième constat qui a été fait, toujours dans cette visée-là, est de dire qu'on est un secteur qui s'est construit de manière certainement empirique, avec des expertises incroyables dans chaque établissement, mais qui ont du mal à sortir de ces établissements, qui ont du mal à être mutualisés, qui ont du mal à être échangés. Sur ce constat-là, arrive une nécessité derrière, qui est celle de pouvoir mettre en commun ces outils-là, de pouvoir partager les expériences des uns et des autres et vos expertises en tant que professionnels. Et le troisième constat, qui est lui peut-être un peu plus générique, est celui de la dynamique des établissements quant à l'ouverture vers les autres structures, à la fois du secteur et plus largement des relations professionnelles qui se créent avec l'ensemble des partenaires sur un territoire. Dans ces trois constats-là, on est en train de travailler à la construction d'un outil qui va être une plateforme communautaire, une plateforme professionnelle à destination des professionnels, des adhérents du réseau FISAF, avec l'objectif d'un lancement dans un an tout juste. Cette plateforme qui, alors on aura l'occasion d'en reparler, qui mérite beaucoup plus de temps que quelques secondes, mais on aura vraiment la possibilité de repartir dessus, a pour visée déjà de pouvoir vous permettre les échanges, non seulement entre professionnels, d'aller pouvoir mobiliser un certain nombre d'experts qui sont, nous, soit des formateurs qui interviennent pour nous, mais aussi plus largement des personnes peut-être un peu plus extérieures qui ont des compétences très précises sur des problématiques de terrain que vous avez et la possibilité pour vous de les solliciter directement par mail à n'importe quel moment, sur n'importe quel sujet. On est en train de monter cette plateforme-là. Également, autre outil qui sera présent sur cette plateforme-là est la question de la vidéo. On voit la richesse hier qu'il y a eu dans les ateliers des présentations et plusieurs personnes sont venues nous dire « mais c'est dommage qu'on ne puisse pas voir ». Effectivement, alors quelle forme ça prendra? Est-ce que ça sera tous les ateliers? Mais ce n'est pas forcément que les ateliers du congrès non plus. Ça peut être un certain nombre de formations, d'informations. On a différents groupes de travail avec lesquels on travaille autour de la démarche qualité, autour des ressources humaines, avec des intervenants qui viennent dans ces journées-là sur des points très précis, qui seront en ligne sur cette plateforme-là et qui seront ouverts à tous les professionnels qui souhaitent rentrer dans cette démarche à la fois d'échanges, de relations professionnelles, d'ouverture sur les autres établissements et de mise en commun des compétences. En présentant le projet il n'y a pas très longtemps une équipe de professionnels, une AVGiste a sauté au plafond en disant « Mais j'ai plein de vidéos, ça fait 5 ans que je filme plein de gestes très spécifiques et je ne l'utilise pas parce que je ne sais pas le diffuser. » Et voilà, elle, en l'occurrence, va mettre sur cette plateforme-là un certain nombre de vidéos sur ces choses-là. Donc c'est un projet vers lequel on va revenir très prochainement vers vous, qu'on a déjà commencé. Nous sommes actuellement en train de lever, de chercher les fonds nécessaires à la construction de l'outil, avec l'objectif d'un lancement d'ici un an. Mais avant le lancement, il y aura tout un comité de pilotage qui va travailler sur la conception, sur l'identification des items, sur le fonctionnement même de la plateforme et sur lequel, bien entendu, si vous souhaitez y participer, ce sera 5 réunions, un calendrier qui est déjà arrêté entre janvier et octobre prochain. Voilà, merci.
Bien, je crois que cette fois-ci, nous sommes vraiment arrivés au bout. Donc, merci à vous tous pour votre assiduité et un merci collectif, ce qui m'évitera d'oublier quelqu'un, à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce congrès. Bon retour et bon week-end.